When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Ça mal.
J'ai super mal.
T'as même pas essayé.
Mais je culpabilise trop de ta voix grave de Batman.
Mais il faut que t'oublies tes cordes vocales.
Mais c'est pas logique.
Super mal.
Mais comment tu fais pour oublier? Mais ça me perturbe.
Ça fait super mal. Je me suis cogné.
Le mec qui parle tout le temps comme ça.
Je me suis cogné le doigt de pied, ça fait super mal. Tout me fait super mal. J'ai les nerfs super sensibles.
Je me suis
couché, ça fait super mal.
Il a mal tout le
temps. Oh, il est doux cet oreiller, c'est super mal.
Salut Théo.
Salut Flo.
Et bonjour les applaudisseurs.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu particulier parce qu'on est confinés. Enfin nous on n'est pas confinés ensemble Théo, mais on est confinés dans la vie. Enfin plus ou moins, on n'y comprend rien hein, on peut le dire.
C'est
on veut pas être anti-gouvernement, faites attention, gestes barrières et tout ça. Mais bref.
Mais continuez d'enregistrer des podcasts à moins d'un mètre de distance avec vos potes.
Moins d'un mètre. En fait, on fait un épisode un peu particulier parce que c'est compliqué vu le contexte de confinade d'aller chercher des invités et donc du coup on fait tous les deux à la bonne franquette.
Ah, et puis disons-le, on n'a pas d'amis.
si ils sont tous loin.
On enregistre hors confinement en fait, mais juste on n'a pas d'amis.
La bonne excuse. T'sais, en 2027, on sera toujours là. Ah, oh, on va toujours pas d'invités. Et en fait, vu qu'on fait un épisode un peu particulier, on voulait prendre un sujet un peu plus niche.
On va parler de la nourriture pour chiens.
Voilà, exactement. Et des toutous toilettage. Moi, c'est un truc qui m'angoissait beaucoup quand j'étais jeune, de voir les toutous se faire défoncer.
C'était pas un toiletteur homologué, ça.
Il se faisait défoncer, genre il ressortait avec des espèces de boules, tu sais, de fourrure chelou sur le corps, non?
Le pire toiletteur. J'ai bien défoncé votre caniche, hein. Ah, fallait lui couper les vœches? Non,
les vœches. Et en fait, on va chercher un peu plus des sujets de niche et aujourd'hui, on va parler des super-héros.
Exactement, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que derrière ce sujet des super-héros, il y avait plein de choses intéressantes à dire.
Mais oui! Et le cliché qu'on...
Bonjour Mario.
Mais oui!
Mais oui!
Mario!
Super-héros!
Here we go! Et donc, le cliché que j'avais pensé mettre à mal, Théo, en fait, on a un petit peu fait ça, genre, ouh, vite, adaptons-nous au confinement. Donc,
derrière
on n'a pas
fagots.
Autant préparé que d'habitude, c'est-à-dire moins, un niveau négatif. Donc, on s'est pas concerté en amont, on a fait cet épisode un peu à la pirate. Et le cliché que je voulais te soumettre, c'était, tous les hommes veulent être quelque part des super-héros.
Ah oui, c'est intéressant.
As-tu un cliché à mettre à mal?
C'était le côté plus le cliché du super-héros classique lambda, c'est en fait, mais c'est un peu la même chose que ce que tu dis, mais au-delà de tous les hommes veulent être super-héros, c'est l'homme idéal ressemble à un super-héros.
Ah nice, c'est pas exactement
c'est
pareil.
Subtilement différent.
C'est une pointe
de poire. Oh.
On a dit poire en même temps.
Ah non.
Ça dit quoi?
J'ai rien dit.
Je
dans ta tête.
Je croyais que t'avais dit poire en même temps et c'était une autre suite de poire. Et genre, c'était tellement random. Ah oh, du coup, je suis très déçu.
Quantiquement, je dis tout le temps poire.
Il y a un univers où je suis kéblo sur le mot poire et je dis tout le temps ça.
Il y a un univers où je suis une poire. Hein.
Ah oui.
Et du coup, qu'est-ce qui distingue cet épisode d'un hors-série? En fait, les hors-séries, on va les garder avec des concepts un petit peu décalés. La dernière fois, c'était en dînant à midi. Déjà, c'est un concept.
décalage.
Donc, on dînait à midi et c'était un truc un peu aux chandelles, un peu romantique. Aujourd'hui, on n'a pas de concept. On va juste parler à la bonne franquette tous les deux. Quoi?
Mais j'ai l'impression que on n'a pas de concept. On n'a pas de structure, quoi, comme à chaque fois.
Non, mais alors ça, moi, je me bats contre ça. C'est pas parce qu'on est digressif qu'on est désorganisé. Je commence à l'assumer, t'as failli t'étouffer dans
ta bière. C'est pas parce qu'on est décalé qu'on est décadent. Lançons l'épisode et voyons de ce qu'il en est.
Ok.
Bon, déjà, est-ce qu'on peut commencer par définir ce que c'est aujourd'hui, au 21e siècle, le super-héros classique, toi, dans ton imaginaire?
Ben alors, c'est là, déjà, tu m'emmènes sur un champ de subtilité que je voulais apporter, parce que la figure du super-héros de mon vivant a déjà énormément changé. En fait, quand j'étais plus jeune, les super-héros, c'était les super-héros imbattables, surpuissants, à qui on pouvait confier le destin de toute la Terre, etc. Aujourd'hui, cette image, elle est un peu mise à mal. Et je voudrais y revenir dans une seconde partie, mais peut-être je vais rester sur mon image naïve de ce qu'est le super-héros. Donc ta question, c'est...
c'est quoi pour toi le super-héros, on va dire classique, quoi, le lambda, le B.A.B.A.
Je vais rester très classique, mais pourquoi un super-héros est pas juste un héros? C'est que le super-héros, il a des pouvoirs surnaturels, et en plus, il a la capacité de sauver la Terre entière, rien que ça. Et après, moi, la figure que j'associe à ça le plus, c'est Superman.
Parce que t'as grandi avec... quand t'étais petite, tu kiffais Superman ou pas du tout?
Et alors moi, j'ai très peu kiffé les super-héros. Je me suis très peu identifié à eux, je sais pas vraiment pourquoi. Et Superman, parce qu'il y a ce truc, il est imbattable. Alors oui, il y a la kryptonite et tout ça, mais il y a vraiment... En temps normal, il est imbattable. On en parlera après parce qu'il y a les derniers films, c'est de déconstruire cette image de l'homme imbattable qu'est Superman.
C'est intéressant parce que tu parlais de... Alors déjà, moi, je pense qu'il y a une caractéristique que je veux rajouter pour moi au super-héros classique, c'est qu'il est toujours musclé et toujours blanc aussi. Hein. Donc, il y a un côté... c'est pour ça que je parlais en intro de ce côté, mais le mythe, l'homme lambda auquel on veut tous ressembler, tu vois, il y a un côté un peu, bah, je suis grand, je suis baraque et je suis un homme blanc cisgenre, tu vois.
C'est vrai, et c'est d'ailleurs ça qu'a bouleversé Black Panther aussi, et ça faisait du bien de pouvoir avoir une franchise un tout petit peu différente.
Exactement. Mais ce qui est marrant, c'est que toi, tu disais que les codes du super-héros ont un peu évolué. Moi, mes premiers contacts... avec les super-héros. Alors, il y a eu Spider-Man, effectivement, le dessin animé, quand j'étais tout petit. Mais moi, les super-héros que j'ai kiffé dans toute ma jeunesse, c'était les X-Men, qui avaient une approche complètement différente. Parce que les X-Men, en tout cas, dans le dessin animé qui passait sur X-Men Evolution, c'est des parias. C'est des gens qui sont stigmatisés, qui sont exclus. Donc déjà, moi, l'image des super-héros, c'était plus axé sur la différence que sur la surpuissance. Il y avait cette idée aussi d'exclusion et de se sentir à l'écart, mais au final, ils étaient quand même meilleurs que les autres. Et moi, ça me touchait beaucoup quand j'étais petit, parce que j'ai grandi en me sentant pas tout à fait dans mes pompes. Enfin, je me reconnaissais pas forcément dans les comportements des autres enfants... Je me sentais à part, quoi. J'étais pas intéressé par les mêmes trucs, j'étais intéressé plus par des sujets d'adultes où je trouvais les jeux des enfants un peu cons, enfin voilà. Et il y avait cette idée de dire, ah mais eux aussi ils sont différents et ils sont pas comme tout le monde, mais c'est pas pour autant que c'est pas eux qui sont pas alignés, c'est que eux ils sont juste une espèce à part. Et cette idée de se dire, il pourrait y avoir quelque chose qui légitimerait ma différence, moi ça m'a beaucoup travaillé et pendant toute ma jeunesse et même... ma vie d'adulte encore aujourd'hui, j'ai toujours eu ce fantasme qu'un jour j'aurai des pouvoirs qui vont se révéler pour justifier de ma différence et de dire mais tout ce temps où je me sentais à côté de mes pompes, mais c'est tout simplement parce que j'étais littéralement pas dans la bonne case, quoi. C'est qu'on m'a mis, on m'a dit Théo, t'es quelqu'un de lambda, alors qu'en fait c'était pas le cas. Et la réalité des choses, c'est que je suis lambda au même titre que tout le monde. Mais au même titre que tout le monde, j'ai ce fantasme d'être complètement différent. Et moi, encore une fois, c'était pas axé sur la supériorité, c'était vraiment sur la différence, dire que fondamentalement, ces gens qui ont des pouvoirs, ils sont différents, quoi. C'est une espèce à part.
Et c'est très intéressant parce que déjà, on a deux conceptions différentes. Alors moi, je dis mes héros, mes super-héros qui m'ont marqué, mais je m'identifiais pas à eux, mais il n'empêche que c'est des super-héros qui vont être axés, tu l'as dit, sur la supériorité, mais aussi un désir d'universalité. Superman, il y a quand même quelque chose d'extrêmement universel dans la manière dont il était présenté jusqu'à aujourd'hui. Alors que toi, tes super-héros t'ont inculqué plutôt la notion d'altérité. Et c'est marrant de voir que déjà en se construisant comme ça, c'est extrêmement différent selon les rôles modèles qu'on va prendre. Et les super-héros ont vraiment un énorme rôle à jouer dans, même si c'est de la pop culture, ils ont un énorme rôle à jouer dans la manière dont on structure les catégories avec lesquelles on voit le monde, quoi.
Complètement. Et sur cette notion d'altérité, moi j'irais même plus loin, c'est que les super-héros qui m'ont toujours le plus touché, ils étaient de près ou de loin liés à une notion d'exclusion et de conflit intérieur. Et paradoxalement, tous les super-héros que j'ai préférés, c'est ceux qui n'étaient pas le super-héros bienveillant et qui avait une part d'ombre ou une part de faiblesse à exploiter. Tu vois, Batman en fait partie. Enfin, il y a plein de super-héros comme ça qui ont des failles en fait. Et moi, c'est les super-héros qui m'ont toujours fait le plus kiffer. Mais d'ailleurs, au-delà de super-héros, c'est le terme super, moi, que je retiens, parce que dans les comics, en fait, quand on creuse au-delà des films un petit peu classiques qui sont très grand public, il y a beaucoup de super-héros qui ont beaucoup de failles, qui sont peut-être pas forcément montrés au cinéma, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais Superman dans les comics, des fois il devient vilain, enfin, et il y a...
vilain. Oh, t'es vilain!
Vilain Superman, prends ta super fessée! Et du coup, je voulais te poser cette question, toi, Florian, quel est ton super-héros préféré, ou alors, peut-être pas ton préféré, mais celui auquel tu t'identifies le plus, quoi, et tu te dis, ah, mais ça aurait pu être moi.
La figure à laquelle je me rattache le plus, parce que j'ai le plus de sympathie, c'est Spider-Man. Je saurais pas te dire pourquoi, mais je pense que s'il y a le côté un peu lambda, jeune, c'est quand même une figure très adolescente, Spider-Man. Alors, moi, je me considère pas comme un adolescent ou comme un ado, mais il y a ce truc de je fais les choses avec ma vie, je compose un peu, tu vois, je suis super-héros entre les cours et mon boulot alimentaire. Et c'est un peu ce qu'on fait avec le podcast, hein, on est un peu des super podcasteurs.
Oh, super-héros auditifs.
Mais non, mais tu vois, c'est ce que j'essaie de faire dans ma vie, moi, d'être un peu la personne ressource entre mon taf et mes impératifs, etc. Donc je pense que je me reconnais là-dedans. Et une figure que j'ai beaucoup aimée, moi, dans Spider-Man, c'est la figure de Venom. Spider-Man qui devient maléfique par quelque chose d'externe. Et puis après, Venom apprend sa vie à part entière, mais il s'est d'abord calqué sur Spider-Man. Et donc cette part d'ombre, mais aussi ce moment où les héros déraillent, moi, ça m'a toujours intrigué.
Tu mets le doigt sur un truc que je trouve assez intéressant et que je n'avais pas identifié, mais ce que j'aime beaucoup aussi dans l'imaginaire super-héros, c'est l'idée d'alter ego et de double personnalité. Tu vois, il y a Spider-Man et... j'allais dire Tony Parker. balance, toi. sur une toile d'araignée.
Oh.
Y a Spider-Man et Peter Parker, il y a Superman et Clark Kent, enfin... Et je pense que j'ai aussi grandi avec ce fantasme de pouvoir être quelqu'un d'autre.
Ouais.
Et je me dis, ok, bah, j'allais dire mon nom. J'allais dire, ok, il y a Théo nananana, domicilié. Ou...
Alors, vous pouvez taper dans Google, hein, Théo nananana, il vient de donner son nom, là.
Avec beaucoup de haine. Parce que dans ma vie, il y a beaucoup de haine. C'est ce qui m'a rendu mes pouvoirs.
Oh, wow.
Et ouais, cette idée de dire, ok, je peux être... De toute façon, j'ai grandi en trouvant la vie chiante, hein, on va pas se mentir. Et cette idée d'avoir un exutoire, un endroit où tout serait différent, où je me construirais avec une personnalité complètement et une identité différente, c'était un fantasme très fort pour moi.
Mais alors, est-ce que t'as une idée de pouvoir en tête?
Oui, moi ça a toujours été le même, c'est le pouvoir de contrôler le temps, de le figer, de l'avancer ou de le reculer. Et ça, déjà, moi je trouve ça complètement pété comme super pouvoir, enfin tu peux tout faire. Et cette idée de pouvoir figer le temps et d'être seul au monde sur la planète et d'être le seul à vivre pendant que tout le monde est arrêté et être tranquille, moi ça c'est un fantasme, je suis un grand solitaire dans l'âme, mais cette idée de pouvoir être tout seul, rien que d'y penser, ça m'apaise quoi. Et derrière le fantasme d'arrêter le temps, il y a aussi l'idée de pouvoir revenir en arrière et de pouvoir corriger des choix. Et je suis quelqu'un qui est, enfin j'essaye de corriger ça, mais qui est vachement dans le contrôle, ce qui est paradoxal d'essayer de contrôler son hyper-contrôle, bon bref.
C'est pas paradoxal, c'est juste le summum.
Ouais, non, mais voilà, tu vois, j'ai un côté... Ah non, faut que j'essaye de lâcher un peu plus prise. Je vais tout faire dans ma vie pour essayer de contrôler et de lâcher plus prise, tu vois. Il y a cette idée d'hyper-contrôle, quoi. Dire, si je suis capable de revenir dans le temps pour corriger les mauvais choix que j'ai faits, c'est le fantasme ultime du contrôle fric, quoi.
Ouais. Et on a ouvert plein de portes. Je voudrais juste les fermer au fur et à mesure.
Super-héros des portes.
Parce que...
Super-porte. Portman, comme Nathalie.
Bonjour, vous voulez passer? Je vous tiens la porte. C'est juste son pouvoir. Portman, il tient les portes.
Voilà, il bosse dans un hôtel. Vite! Gogo Gadget, ah non, oh. Gogo Gadget, est-ce que c'est un super-héros? Techniquement, ça pourrait l'être.
Ben alors, moi, c'est la question que je me posais. Que pour moi, Batman, c'est pas un super-héros. C'est juste un super-riche. C'est comme, pour moi, Iron Man n'est pas un super-héros. Et c'est pour ça, juste un coup de gueule. Ce que j'ai détesté dans tous les comics d'ici, les Marvel, là, tous les Avengers, Tony Stark fabrique la combinaison de Spider-Man. Parce qu'en fait, Spider-Man, il peut se débrouiller tout seul. Il a pas besoin d'une tenue qui lui fasse devenir une araignée chelou ou je sais pas quoi. Ça m'a saoulé. Bref. Donc,
ça m'a saoulé, hein.
Ça m'a saoulé. Parce que pour moi, un super-héros, il y a quelque chose
de
mystique, d'extraordinaire qui doit pas s'expliquer par la technologie, qui est une nouvelle forme de super religion.
C'est vrai, moi je suis un petit peu d'accord avec toi, j'ai du mal à concevoir que dans le film Batman versus Superman, Batman réussisse à Ken, enfin à Ken.
On a pas vu le même.
Ah, c'est d'Orcel TV. Batman versus Superman.
Oh.
Batman.
C'est un truc de SM où il le tabasse avec une batte. Ah, t'as mal, hein?
Avec
je suis Batmal.
Bref, je trouve ça pas logique.
Ouais, après, il y a de la poudre de kryptonite et tout, ça peut se tenir. En fait, Superman, à chaque fois, on le nique avec de la kryptonite, donc
Kryptonique.
Batman. Je n'étais pas là-dessus. Pour moi, c'était un cocktail. Je te sers un kryptonite. Hein. Oh, il y a trop un truc à faire.
Le Batman un peu con qui se rend pas compte qu'il y a de la kryptonite.
Ce kryptonite est délicieux.
Je vais sniffer de la poudre c'est de la coke, hein. Non, c'est de la poudre de kryptonite. Oh, trop tard.
Mais non, mais attends, tu fais un cocktail avec du kiwi, genre ça fait un truc un peu vert, etc. Un kryptonique avec du gin, du tonic et du kiwi et ça fait de la kryptonique. Alors s'il y a des bars qui veulent sponsoriser cet épisode, on leur donne l'idée, mais envoyez-nous des cocktails.
Et puis on sait que vous avez besoin de faire venir du monde en ce moment parce que tout est fermé.
Parce qu'il y a personne, hein. Moi je passe devant des bars, il y a personne.
Je
Qu'est-ce que vous foutez
pas, mais il faut faire un peu de pub là.
Faire de la pub. Nous on veut bien vous aider, hein, parce que nous on travaille. Bon, on touche pas d'argent, mais
super altruiste.
Et donc Batman, c'est un peu cheaté et tout ça. C'est peut-être pas un super héros, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que il est un peu border. Moi, ce qui me faisait peur chez Batman quand j'étais petit, c'est que moi, c'est mon frère qui m'avait initié au super héros. Il m'avait dit, c'est un super héros, mais qui tue les méchants. Et il m'avait dit ça, j'étais super jeune. Et moi, j'étais là, what? Normalement, ils sont pas censés faire ça. Et du coup, j'avais peur de Batman. Genre, je disais, oh, il va tuer tout le monde. J'ai pas envie de me retrouver devant lui. Alors que Superman, quand j'étais petit, j'étais complètement ok de me retrouver devant lui. Alors, il est gentil, il est solaire, il est bienveillant envers tout le monde. Batman, il est flippant.
Alors, mais moi, c'est marrant, mais moi, c'est complètement l'inverse.
Ah ouais?
Mais ça, c'est dans ma vie de tous les jours. Quelqu'un que je vois trop parfait, je suis forcément sur la défensive. Pour moi, on a tous une part d'ombre et je suis beaucoup plus rassuré envers quelqu'un qui a physiquement l'air flippant et tu sais exactement où sont les failles et les problèmes que quelqu'un qui a l'air parfait. Parce que quelqu'un qui a l'air parfait, je pars du principe que tout le monde a une part sombre. Quelqu'un qui a l'air parfait, tu sais pas où va surgir sa part sombre. Quelqu'un où tu vois la faille, tu dis « Ok, je dois me méfier de ça, de ce trait de caractère-là, tout le reste, c'est bon. » Et Superman, moi, ça m'a toujours fait flipper, c'est un être parfait, quasi divin. Putain, ça pue la merde. Le mec, il a beaucoup trop de pouvoir. S'il veut tout niquer, il le fait, tu vois.
Mais
Batman,
ça, tu l'avais.
Sais où sont ses failles? Et je l'avais pas conscientisé, mais.
Mais des jeunes, t'avais cette sensation-là?
Des jeunes, Superman, ça a jamais été, ça a même été, je pense, mon super-héros détesté. Je le trouvais trop cheaté, ou c'est même pas drôle, tu. Où est le conflit? Ok, il y a la kryptonite, mais c'est un truc sorti du chapeau, tu vois. C'est les écrivains, ils se sont dit, ah merde, on a oublié de lui faire une faiblesse. Bon, on va la rajouter, on a qu'à dire que c'est une pierre.
C'est un caillou. Je suis d'accord avec toi. Alors vraiment, c'était pas mon super-héros préféré. C'est juste que c'était tellement pas ma culture familiale que je me suis nourri des super-héros lambda qui arrivaient à moi. Donc le triptyque que j'ai cité. Et pour Superman, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, il est trop cheaté. Moi, je suis d'accord. En fait, c'est un super-héros assez ennuyeux au final, mais très flippant. Est-ce que le virement que j'observe en ce moment, ça a commencé avec Batman versus Superman, mais ça continue avec The Boys, une excellente série. En tout cas, la saison 1.
Même la 2 est pas mal. Tu l'as pas vu?
Si, mais il y a des grosses faiblesses scénaristiques. Enfin, vraiment, il y avait une figure héroïque, féminine, enfin anti-héroïque du coup féminine, qui était extraordinaire. Ils l'ont bâclé, ils ont fait un point Godwin. Enfin, c'est n'importe quoi.
Je suis d'accord.
On va pas spoiler. Mais en fait, ce qui est intéressant avec The Boys et Batman vs Superman, c'est que justement, ce désir de perfection. Et aussi, je pense que c'est une remise en cause culturelle de ce que a infligé l'Occident ou la culture dominante occidentale, de vouloir évangéliser selon ses valeurs qu'on pensait parfaites. Ça se reporte dans la pop culture aujourd'hui de dire, bah en fait, vouloir être parfait, c'est un enjeu de domination qui est grave en puissance. C'est vraiment faire attention qu'à chaque fois qu'on veut évangéliser, on peut arriver à dominer contre les autres, en fait. Vraiment, prétexter que c'est pour leur bien, ça peut devenir la meilleure excuse pour répandre le mal.
Et pour continuer sur tout ça, et par exemple, tu vois, je te disais, j'aime bien les super-héros avec une part d'ombre. Et le tournant que prend dans les comics Superman à un moment donné, en gros, il y a Lois Lane, ça s'appelle, ouais. qui meurt et il devient fou et il devient complètement méchant. Et je trouve que c'est un virage très intéressant pour le personnage. Et moi, j'aime beaucoup ce Superman-là, qui l'idée d'un dieu qui tournerait mauvais, quoi. Je trouve ça très très fertile, quoi. Si t'avais un super pouvoir, Flo, ce serait quoi, toi?
Quand j'étais petit, je rêvais beaucoup que je savais voler. Et je sais que c'est très standard. Mais je le rêvais beaucoup. Il y avait aussi, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'avais développé sans m'en rendre compte, étant petit, la capacité à faire des rêves lucides, donc en fait à prendre le contrôle de ce que je peux faire dans mes rêves consciemment. Et dans ces rêves, soit je volais, soit je respirais sous l'eau. En fait, je me voyais tout le temps évoluer dans un environnement qui n'était pas censé être le mien, mais dans lequel je m'épanouissais. Et je pense que ça, c'est très très lié à mon désir de liberté. J'ai beaucoup beaucoup besoin de sentir que le champ des possibles est ouvert pour me sentir à l'aise et créatif, etc. Aujourd'hui, c'est pas tant ce pouvoir là que j'aimerais avoir. Moi, j'avoue que le pouvoir d'arrêter le temps m'aiderait beaucoup dans la vie, mais aussi pour les mêmes raisons que toi, en fait. C'est pour ça que moi je travaille beaucoup la nuit de manière créative quand j'ai sur d'autres projets, etc. Je travaille beaucoup la nuit parce que c'est un moment où tout s'est stoppé et j'ai le droit d'être le seul au monde, en fait. Donc il y a ce truc-là, et ça a été très teinté de ce que j'ai regardé en étant ado. J'ai beaucoup grandi avec Charmed, et un des pouvoirs d'une des sorcières, donc Charmed, c'est trois sorcières, trois sœurs sorcières, qui étaient normalement destinées, enfin en termes de marketing, beaucoup plus à des meufs.
Il y a Paige.
Paige, Piper and Prue, au début.
Prue?
Ouais, ah non, il y avait Phoebe, Piper and Paige. Voilà. Non, Phoebe, Piper and Prue.
Après, il y a eu Paige.
Qui a remplacé Prue. Et c'est Piper qui peut contrôler le temps, et j'étais là waouh, parce qu'après elle développe son pouvoir, elle peut visiter des trucs dans le futur, dans le passé, tout ça devient encore plus ouf. Et un autre truc qui m'a un peu fasciné, mais c'est cheaté, c'est le pouvoir de Green Lantern, de pouvoir créer des trucs, parce que ça, sur la créativité, moi je pense que je vis pour imaginer quelque chose et le rendre réel. Enfin, il y a vraiment une espèce de mission chez moi de me dire, j'ai le monde pourrait être encore plus beau ou plus tranquille, ou plus tout ce que c'est pas que le monde actuel me satisfait pas, mais c'est juste que je me dis, on est là pour laisser une empreinte positive. Et ça passe par le pouvoir de créer. Et donc, Green Lantern, c'est un peu l'archétype de ça, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Il y a, pour moi, le pouvoir cheaté, c'est Dr. Manhattan dans l'univers DC, qui est juste omniscient, quoi. C'est son pouvoir. Il est omniscient, il sait tout ce qui se passe tout le temps sur la Terre. Et ce qui est, je trouve, très beau dans ce personnage, c'est qu'il décide de se mettre en retrait. Parce qu'il est trop pété, quoi, il le sait, quoi. Et il va sur Mars, il construit des horloges.
Mais alors, c'est ça qui, moi, m'a fasciné dans Watchmen. C'est que, il est pété, mais en fait, il est tellement dans un truc quantique où il a compris tout l'univers qu'il n'a plus rien à faire avec l'humanité. Et ça, c'est, je pense, très bien vu. Il a même plus de désir de contrôler ou de sauver, en fait. C'est juste, ça n'a plus d'importance. Spoiler, attention, vous pouvez passer de 15 secondes si vous voulez pas, mais...
Il a une énorme bite.
Il a une... C'est vraiment... Dans la série Watchmen, l'acteur a une énorme tub. Mais c'est juste que dans la série Watchmen, il meurt. Et il le sait. Et il y a quelque chose de très beau dans le fait de lâcher prise. Enfin, c'est vraiment un Bouddha, quoi. Il sait qu'il va mourir, à quel moment il va mourir.
Un Bouddha. Ah, tu parles plus de sa bite?
J'ai dit Bouddha ou Bouddha?
T'as dit Bouddha.
Ok. Il y a quelque chose de... Enfin, je trouve que c'est un personnage ultra cheaté, mais vachement mieux exploité que Superman, dont la psyché est pas très aboutie, je trouve, à terme. Toi, si tu devais être un super-héros, en choisir un, tu serais lequel?
Alors moi, il y a un super-héros que j'aime énormément, qui est dans l'univers X-Men, qui s'appelle Légion. Alors c'est un super-héros qui est pas connu, il a pas été mis en film pour l'instant. Il y a une très bonne série à propos de ce personnage, que je conseille. Légion, c'est un X-Men qui est schizophrène. Et en fait, son pouvoir, c'est d'absorber les pouvoirs des autres quand il tue des gens. Ou alors, il les tue en les absorbant, peu importe. Et en fait, il absorbe leur pouvoir, mais aussi leur personnalité. Donc Légion, c'est un personnage qui a un potentiel de ouf, parce qu'en fait, il peut juste buter quelqu'un et choper ses pouvoirs, et sa personnalité aussi. Mais du coup, c'est un personnage extrêmement torturé, qui se bat avec les personnalités, les identités de toutes les personnes qui sont mortes à cause de lui, quoi. Et qui est très très puissant aussi, qui est complètement schizophrène et fou allié. Et c'est un personnage, moi, que je trouve fascinant. La série rend très bien ça, parce qu'il y a perpétuellement dans la tête de ce mec-là qui qui contrôlent pas ses pouvoirs en fait, parce qu'ils sont contrôlés par 100 personnalités différentes. Et il y a ce côté, voilà, il se laisse submerger. En même temps, il est capable de tout. Et vu qu'il contrôle pas ce pouvoir, il est capable de rien. Et ça, je trouve ça intéressant. Et cette problématique de potentiel inexploité, moi, je la retrouve vachement dans ma vie où je suis un gros flemmard. Et en fait, je pourrais sûrement faire des choses cool, mais j'ai juste la flemme.
La conclusion. Si toi, t'étais un super-héros, ah bah, je pourrais sauver la planète, mais la flemme. Moi, ce qui est marrant, c'est que je m'identifie pas tant aux super-héros qu'aux super-méchants. Je trouve que les super-méchants ont des pouvoirs bien plus intéressants. Il y en a un qui m'avait particulièrement marqué. C'est le méchant, je sais plus comment il s'appelle, mais dans Heroes, la série Heroes qui date des années...
Sylas?
Syler. C'est celui, en gros, c'est un horloger qui... Alors, je sais plus exactement son histoire, mais en gros, il a appris à comment fonctionnent les horloges et il découpe les crânes pour comprendre comment fonctionnent les pouvoirs des heroes, des super-héros, pour les absorber. Et donc, plus on avance dans les épisodes, plus il absorbe des pouvoirs, mais en tuant les gens. Et moi, ça m'avait fasciné. Parce que je pense que c'est... s'il faut tuer des gens, c'est compliqué de faire ça. Mais je pense que ce qui me motive le plus dans la vie, c'est d'apprendre éternellement. Et donc, de voir en fait le côté accumulation, de savoir que ça fait accumulation de puissance. Et surtout, pas tant pour dominer les autres, mais accumulation de, encore une fois, comment le champ des possibles s'ouvre. Ça m'avait déglingué la tête. Juste pour pas que ça soit un épisode trop auto-centré, est-ce qu'on peut monter un peu en généralité sur ce qu'on est en train de dire
des super-héros?
Sur la masculinité.
Exactement. Et qu'est-ce que ça dit? Pour moi, je pense qu'il y a un truc sur le mythe du, enfin, le virilisme que ça implique. Les figures comme Superman, enfin, déjà on l'a dit, ils sont tous très très baraques.
Ouais, et ça ne change pas, hein. Dans Avengers, que j'ai regardé tous à la suite récemment, ils sont tous ultra stock. Et les meufs ultra courbées, machin.
Exactement.
Truc.
Et même si tu prends un super-héros qui est au début maigre comme Captain America, en fait, ses super-pouvoirs, c'est d'avoir des muscles. On va pas se manquer.
Si on va se manquer, t'es où?
Et donc, il y a quelque chose, moi, je trouve, c'est le... moi, j'adore l'univers des super-héros, mais il y a beaucoup, ça fait beaucoup de mal aussi, en termes de représentation culturelle.
Il y a cette rhétorique de la domination chez les super-héros qui est quand même omniprésente, qui est en train d'être un peu remise en question, tu vois, de « oh, Superman peut devenir méchant », etc. Mais il y a quand même toujours ce combat pour le pouvoir, même si le pouvoir est soi-disant utilisé pour faire le bien et que la notion du bien est de plus en plus éprouvée à Hollywood. On est quand même dans une idéologie qui ne bouge que très peu.
Je trouve que dans le super-héros, il y a quand même une idée de domination masculine sur le féminin. Et même s'il y a des héroïnes meufs, mais on sent limite que Hollywood y va soit parce que ça fait vendre, soit à contre-cœur, tu vois. Enfin, et je trouve que le mythe du super-héros entretient cette idée de sauveur, cette idée de chevalier servant. Enfin, même aujourd'hui, quand tu vois les représentations féminines, alors déjà, elles sont toutes gaulées comme pas possible, c'est un peu chiant. Souvent, c'est des personnages, malheureusement, qui sont assez plats. Déjà qu'en général, les super-héros sont plats, mais alors les super-héroïnes, c'est pire que tout, tu vois. Et c'est un peu chiant, parce que on y va au forceps, comme si on avait besoin de justifier. Je prends l'exemple du film Avengers Endgame. Il y a une scène à la bataille finale où tu vois toutes les meufs qui se battent entre elles contre les méchants. C'est vraiment 5 minutes, alors c'est une belle scène de baston, mais c'est 5 minutes de femme washing, tu vois, où tu dis, bah vas-y, ah tiens, on va bien montrer dans cette scène qu'on a plusieurs héroïnes féminines qui se battent ensemble. Alors ouais, c'est cool, mais derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'aurais jamais pu montrer ces femmes-là se battre au même niveau que les hommes ou dans un combat avec les hommes, parce que les hommes auraient été plus impressionnants. Enfin, c'est débile.
C'est vrai et dans cette guerre-là, d'ailleurs, Black Widow se bat avec une méchante du côté de l'équipe adverse. Enfin, il y a un truc, bon bah en fait, mettez-la contre un homme.
C'est ça, et c'est les femmes contre les femmes, d'ailleurs, exactement.
Et ça me fait juste rebondir, dont tu disais les super-héros sont assez limités. En termes d'émotion aussi, c'est très binaire. C'est soit de la colère, soit de la abnégation pour sauver le monde. Enfin, et un des drivers principaux des super-héros, je suis assez étonné toujours de voir que c'est la colère. Il y a toujours, alors oui, parce qu'ils doivent se battre contre un super méchant et donc du coup, faut pas le laisser détruire la planète, mais c'est quand même très très limité. Moi, une scène qui m'a marqué dans Avengers, c'est quand le héros humain de Gardiens de la Galaxie, qui s'appelle Star-Lord, qui est joué par Chris Pratt.
S'il veut nous sponsor.
il réagit à la mort de sa copine, qui a été tuée par le gros méchant. comment il s'appelle, putain.
Thanos.
Voilà, par Thanos. Et il réagit avec de la colère. Alors, on peut le comprendre, mais en fait, la planète va être condamnée, même l'univers va être condamné. Et lui, il réagit comme un adolescent bourré de testostérone.
C'est ça, et juste pour être aussi, c'est, en fait, ils sont en train de contrôler Thanos, ils l'ont, quoi.
Ils vont y arriver.
Et il s'énerve, et du coup, il le réveille, je crois.
En fait, tout le monde, alors c'est un travail d'équipe de ouf, il maîtrise Thanos, qui est quand même ultra puissant, qui a toutes les pierres d'infinité. Et Chris Pratt, Star-Lord, ne confondons pas l'artiste de...
Dissocions l'artiste. Horrible.
Il va tabasser Thanos juste pour lui dire, qu'est-ce que t'as fait d'elle? T'es pas gentil. Et du coup, Thanos se réveille de sa léthargie et il les défonce et c'est comme ça qu'il perd le combat.
Elle m'a tellement vénère, cette scène.
Mais moi, ce que je trouve, ça veut vraiment, au-delà de la pauvreté scénaristique, etc., ça en dit très très long sur ce qu'on impose aux hommes d'être. C'est genre, mettez-vous en colère, votre colère est légitime. Et en fait, non. C'est vraiment une des rares émotions qu'on autorise aux hommes, c'est ça. Et elle est vraiment trop insistante dans ces films de super-héros.
Exactement. On en a beaucoup parlé de cette émotion qui est la colère, qui est la seule qu'on autorise un petit peu aux hommes aujourd'hui. Et c'est vrai que tu me l'avais pas... Enfin, je l'avais pas identifié, mais c'est omniprésent dans ces trucs-là. Et l'autre qui va... l'autre truc après la colère, je trouve, moi, qui m'énerve aussi, c'est le sens du sacrifice.
Ah.
Qui est le truc de genre je suis obligé de mourir pour que les gentils gagnent, tu vois, genre c'est tellement le mythe du sauveur ultime, quoi. Il y a pas de plus héroïque comme truc que de mourir pour porter le coup fatal aux méchants. Et c'est chiant, quoi.
C'est chiant de mourir, quoi.
Non, mais arrêtez de mourir, de vous sacrifier. Et en même temps, tu vois, on vient de dire que ça nous énerve que Star-Lord refuse de faire ce sacrifice-là et qu'il prenne sur lui pour buter Thanos, tu vois.
Ouais, mais là, c'est différent. C'est une forme de sacrifice émotionnel.
Mais ce qu'on note déjà, c'est que c'est toujours les mecs qui se sacrifient, c'est toujours les mecs qui s'énervent, tu vois. Alors, j'espère que les films de super-héroïnes vont se démocratiser et qu'il y aura de plus en plus de figures féminines qui vont... avoir le droit de s'énerver, d'agir non pas pour amour. Wonder Woman, je suis désolé, mais sa motivation dans les films, c'est l'amour. Donc en fait, ça fait un peu chier, quoi.
Alors moi, je trouve que c'est une très bonne motivation, mais ça serait bien que ça soit porté
pour les hommes. Ouais. Ouais, exactement. Si on veut vraiment inverser les rôles, voilà, les femmes, elles sont.
Et il y a aussi moi ce truc, je contrebalance quand même, parce que inverser les rôles, c'est toujours avoir rapport à la norme. Donc il faut aussi être plus nuancé que de on va intervertir le rose et le bleu, tu vois.
Mais je pense que c'est un peu un processus par lequel on est obligé de passer. C'est d'abord on intervertit pour voir ce que ça fait et après on tempère.
Je suis entièrement d'accord, mais juste je permets de le nuancer pour dire que c'est pas la phase la plus souhaitable, c'est pas la phase ultime.
Et on a un podcast gentil.
Et juste Black Widow se sacrifie dans Avengers.
C'est vrai. Voilà, c'est une scène intéressante, mais elle se sacrifie alors que c'est le mec qui veut absolument se sacrifier et ils se battent pour se sacrifier.
Oui, mais du coup, les deux rôles.
Mais c'est vrai que c'est très bien.
Ils ont essayé, hein. Quoi qu'on en dise, ils ont essayé de faire des trucs, ils ont quand même un peu à l'écoute, même si c'est très lacunaire. Et juste dernier truc qui est un peu lié à la colère et au sacrifice, c'est que les super-héros se bagarrent tout le temps. Et moi, ça me gonfle. Alors après, ça c'est pas que genré, mais c'est juste que la figure du super-héros est née avec les hommes. Et tu vois, Wonder Woman, c'est une Amazon, elle se bat, etc. Mais ce rôle tout le temps de la bagarre dans les trucs de super-héros, ça veut aussi dire, enfin, même, tu vois, ça, c'est un truc de héros tout court, en fait. Tu vois, dans Star Trek, t'as Capitaine Kirk qui casse toujours la gueule à tout le monde et tout
Le conflit se résout toujours par le combat parce que c'est plus spectaculaire.
Ouais, et ça, c'est un peu fatigant.
Et moi, justement, il y avait un truc que j'avais beaucoup aimé dans le film Doctor Strange. Je sais pas si tu l'as vu.
Ouais.
Qui est, du coup, bon, le mec a le pouvoir, entre autres, de contrôler le temps, justement. C'est ça qui est intéressant. Et il est face à un méchant qui est tellement pété, qui est juste un dévoreur d'univers, dont aucun super-héros ne peut lutter, quoi, littéralement. Et la façon qu'il a de battre ce méchant, c'est de l'enfermer dans une boucle temporelle où Doctor Strange est prêt à mourir indéfiniment, parce qu'en fait, il a fait une sorte de point de sauvegarde et ils sont bloqués tous les deux dans cette confrontation. Et le seul moyen qu'a le super-méchant de s'en sortir, c'est d'accepter de marchander, en fait. Et j'ai trouvé que cette issue était brillante, et c'est rare qu'on voit dans des films de super-héros des issues entre guillemets qui font appel à de la diplomatie. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça, et déjà je trouvais ça intelligent, et c'était un super-héros intelligent, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé au final, c'est que le conflit se règle pas par la force brute, mais par les neurones. Et ça, c'était vachement bien.
Et ça, je rebondis. Moi, Doctor Strange, alors je trouve que le traitement qu'ils en ont fait est un peu dommage, malgré l'amour que je voue à Benedict Cumberbatch, mais Je trouve que c'est un héros super intéressant parce que c'est un héros qui est dans sa tête, il, tu vois, enfin, il a une cape qui fait la bagarre pour lui et lui, il a ses pouvoirs et il maîtrise un peu le temps, l'espace. Enfin, il y a quelque chose d'assez nuancé. C'est un héros quantique et il y a quelque chose de plus intéressant dans le traitement de ce que peuvent faire les hommes aussi avec leur cerveau et leur capacité mystique que juste de résoudre les trucs par la bagarre. Donc ça nuance un peu la figure du super-héros.
Ouais, il y a un côté très développement personnel dans le parcours de Stephen Strange.
Oh yeah.
Qui est assez intéressant d'ailleurs, et aussi le fait qu'il, alors ça c'est, bon, c'est pas propre qu'à lui, mais c'est un super-héros qui n'avait pas envie d'être super-héros du tout. Et ça, je trouve ça cool, et il est parti avec ce côté très rationnel, et en fait on lui a ouvert un peu le troisième œil. Et ça, je trouve ça intéressant comme démarche aussi.
Et ça, le côté de super-héros qui n'avait pas envie d'être un super-héros, c'est un des ingrédients intéressants à exploiter, je trouve, parce que c'est comme pour le pouvoir, et là, je parle de politique. Donc, désolé, c'est un tout petit moment politisé, mais je trouve que le seul critère pour pouvoir détenir le pouvoir serait de ne pas avoir voulu le pouvoir.
Exactement.
Et c'est quelque chose qui est de plus en plus exploité maintenant, et c'est pour ça que je crois que j'aime beaucoup Spider-Man, c'est que c'est un héros qui à de nombreuses reprises dit je renonce, en fait j'en ai marre, j'ai ma vie, en fait j'ai envie d'avoir ma copine, j'ai envie de suivre mes cours, de vivre normalement, et ça arrive dans les Spider-Man qu'on le montre renoncer et que finalement il revient, etc. Donc il y a toujours quand même une forme de morale derrière, mais j'aimais bien ce côté-là, et moi c'est, je crois que c'est pour ça que ça résonne autant chez moi, c'est que des fois la vie est dure, j'ai des trucs à faire ou des trucs à respecter ou les choix sont pas les plus faciles. Mais le fait de douter, de montrer quelqu'un qui doute, qui essaye, qui revient sur sa décision parce que finalement il sent que ça crée une dissonance en lui qui ne vaut pas le coup d'être vécu, j'aime bien ce côté-là chez Spider-Man.
Mais ce qui est marrant, c'est que ce qui nous touche le plus dans les comportements super-héroïques, c'est les rares moments où on les voit humains.
Oh ouais.
Tu me fais trop dans le dédain.
Oh ouais. Ouais,
on est grave.
Oh, bravo, hein. Sur la masculinité, peut-être je voudrais tirer le filon de ce qu'on a dit tout à l'heure en plus perso, mais t'as évoqué la part d'ombre. Et je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant de montrer chez les super-héros.
Oui, moi il y a un héros ou anti-héros, peu importe, parce qu'on n'est pas tous dans le même panier de l'héroïsme. Non, pas du tout. C'est dans Watchmen toujours, c'est le personnage de Rorschach. qui est très très dark,
c'est vrai.
Que j'adore dans le film de Zack Snyder. Le personnage de Rorschach dans le film est vachement sombre. Il est vraiment. Alors moi, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé, c'est que déjà dans son physique, il est très sec,
ouais.
Il est très fin, assez petit aussi de mémoire. Enfin, il a la gueule du mec qui a une gueule d'un peu limite de victime, tu vois. Et en fait, lui pour le coup, il bute des gens, quoi, sans vergogne. Enfin, il bute des pédophiles. Et c'est un héros tout autant, et pour le coup, je crois pas qu'il ait de pouvoir, si je ne me trompe pas.
Non, et c'est ça qui est étrange, moi, il y a une espèce de mystère autour de ce personnage.
En fait, son seul pouvoir, limite, c'est de pas être aussi bridé par la morale que tout le monde, quoi, j'ai l'impression.
Ouais, mais du coup, c'est vrai que son masque, du coup, qui est tout en mouvant...
Ouais, voilà, ça...
ça montre cette ambivalence aussi chez lui, du test de Rorschach, où tu peux voir... en fait, ça dépend de ton état psychologique, tu peux voir quelque chose de beau, comme tu peux voir quelque chose de démoniaque.
Il y a un côté très instable, du coup, cette part d'ombre que j'aime beaucoup dans ce personnage-là.
Ouais, et le côté d'assumer cette instabilité-là, je pense que c'est, on revient à ce que tu disais au début, je pense que c'est sain, parce que on a aussi besoin d'arrêter les hommes, de faire semblant d'être parfait, de pouvoir tout encaisser, de pouvoir tout contrôler, de pouvoir tout dominer, et du coup, en filigrane, de dicter l'ordre du monde. Et accepter cette part d'instabilité, c'est pas tant l'excuser que de dire on ne sait absolument pas ce qu'on est en train de faire. Et je trouve que c'est bien d'amener le sujet, même si c'est border, parce que ça peut très vite excuser la part de violence brute qu'il peut y avoir en nous. Je pense que c'est bien aussi de la montrer, de qu'on ne contrôle rien et qu'il vaut mieux être vigilant avec les pouvoirs qui nous sont donnés.
C'est très intéressant. Moi, en ce moment, j'essaye d'appliquer une sorte de philosophie de vie, si on peut dire ça comme ça. C'est de se dire que le plus important, c'est pas là, enfin, c'est pas le point d'arrivée ou le point de départ, c'est la distance qui sépare les deux.
Ouais.
Par exemple, Superman, il naît au top, quoi. Il est au top niveau et bah du coup, bah, il progresse très peu. Mais un personnage qui a eu cette part d'ombre et qui progresse, qui la traite ou qui s'en sert, peu importe, mais cette idée de le différentiel, pour moi, le vrai progrès, il est dans le cheminement entre le point de départ et le point d'arrivée et le chemin que t'as parcouru. Le plus important, c'est le voyage, pas la destination.
Moi, je suis d'accord avec
non,
ça.
Non, mais il y a un peu ce côté-là et je fais un parallèle avec le podcast, mais moi, ce qui me marque dans le podcast, c'est de dire, OK, nous, notre parti pris, c'est d'être des gens lambda et jour après jour d'essayer de devenir un peu mieux que ce qu'on était la veille. Et il y a des gens qui partent du principe que ils sont qui ils sont, ils changeront jamais, et ils capitalisent sur qui ils sont, mais du coup leur point d'arrivée sera toujours le même endroit d'où ils sont partis. Et moi je trouve ça intéressant, cette idée de cheminement, de s'améliorer, et c'est pour ça que j'aime autant les super-héros qui ont une part d'ombre, c'est qu'il y a de la tension, quoi. Il y a des trucs à parfaire. Superman, il est parfait, et ça me saoule. C'est pas intéressant. Quelque chose qui est parfait, bah c'est quelque chose qui est statique, et la vie n'est pas statique. La vie elle est en mouvement, et le mouvement il est dans l'inconstant, quoi.
Et ben comme quoi nous ne sommes pas des super-héros, nous sommes simplement des héros du quotidien.
Sexe, drogue, alcool, les héros du quotidien au Cap d'Agde.
Les héros, c'est vraiment des gros nuls.
Oh, parce que zéro et nul, c'est la même chose.
Eh oui, c'était une merci d'expliquer mes blagues, Théo. Les super vilains ont un projet pour l'univers. Là où les super héros... C'est devenu très politique.
Tu nous écoutes, Manu. Tu nous sponsors.
Bah, il écoute McFly et Carlito. Enfin, en tout cas, nous, on est au même niveau que McFly et Carlito. On a la même audience.
Moins 3-0. Moins 4-0, même.
Non, alors, McFly et Carlito, que j'admire beaucoup, pour avoir osé d'être eux-mêmes aussi publiquement. Enfin, vraiment, bravo. Après, il y a des choix plus discutables, mais ça, c'est autre chose.
Comme par exemple, répondre à un call du gouvernement
Macron. Mais bon. Et juste, les super-héros n'ont pas de projet, ils ne font que endiguer, éradiquer le projet du super-vilain, et ça manque. Moi j'aimerais bien un super-héros qui arrive avec un projet. Moi j'adorerais un film où t'as un super-héros qui arrive avec un projet, tu te dis ah c'est cool, et en fait à un moment du film ou au fur et à mesure du film tu te rends compte que son projet il est en fait super méchant, et que les gens qui essaient de l'empêcher de faire son truc, tu réalises qu'au final ce sont eux les gentils, parce qu'il est en train de complètement transformer le monde tel que lui il l'avait vu, et en fait sa vision était parcellaire et que ça peut détruire des choses.
Alors, c'est intéressant, mais parce que souvent on le voit dans l'autre sens, il y a beaucoup de super vilains qui partent d'un but qui est assez noble. En fait tu vois Thanos, son combat, donc son but c'est d'éradiquer la moitié de l'univers pour que les gens puissent vivre avec les ressources qui s'épuisent, en fait.
Ouais, mais alors ça...
Ça quoi?
Bah ça, en fait, je suis désolé, mais c'est un twist scénaristique assez pauvre, parce qu'en fait, s'il veut qu'il y ait plus de ressources, il peut multiplier par deux au lieu de diviser par deux.
Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que c'est dans les comics, c'est pas du tout ça l'histoire. Et moi, je trouve l'histoire dans les comics, elle est beaucoup plus belle, mais c'est l'origine d'une émotion qui est beaucoup plus féminine que masculine. Dans les comics, Thanos est amoureux de la mort.
Ah ouais?
Il est amoureux de la mort, qui est une entité divine, enfin qui naît à la naissance de l'univers, et qui est dans les comics, qui est personnifiée. Et pour tomber amoureux de la... Enfin, il est tombé fou amoureux de la mort, et pour lui témoigner tout cet amour, il veut tuer la moitié de l'univers.
Mais ça se tient beaucoup plus.
Et c'est une émotion très... Du coup, c'est de l'amour, c'est très féminin, et ça n'a pas été mis dans le film Marvel.
Eh ben, je suis désolé, mais alors, je ne savais pas ça, mais ça se tient beaucoup plus. Et en fait, on pourrait dire « Ah, mais c'est trop facile !» Mais en fait, non. Et parce que ce n'est pas... Comment dire ? C'est pas un projet politique. Là où Thanos, dans les Marvel, est très politisé, et dire « Oui, j'ai vu la guerre, j'ai vu
tout ça. » Je crois qu'il y a un mélange un petit peu des deux, mais vraiment, c'est l'amour pour la mort qui est... L'amour pour la mort, déjà, c'est beau.
Bah oui, non mais rien que ça, c'est splendide. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la synergie dans les super-héros, et les Avengers ont un peu ouvert ça, même si c'est pas de la synergie, c'est plus de l'accumulation qu'autre chose. Mais non mais et voilà, de se dire aussi que les super-héros peuvent être lacunaires et doivent se compléter les uns les autres. Moi, c'est quelque chose qui est un message qui est important aussi d'envoyer.
Construisons des univers.
Oui,
concrétisons les pensées, les rêves.
Ouais, on parle comme Renaud. Sur ces bonnes paroles, comment terminer un épisode? en tout cas, moi j'étais content d'avoir une petite capsule comme ça, même si ça diffère un peu de d'habitude. Il fallait qu'on trouve un format pour le confinement, donc
oui,
voici ce qu'on
puis,
vous propose.
Dites-nous si ça vous intéresse, ces thèmes-là qui sont un peu, comment dire, qui sont pas forcément évidents vis-à-vis du sujet de la masculinité, mais sur lequel, je l'espère, on a réussi à retomber un peu sur nos pattes, des trucs un peu éloignés comme ça, parce qu'on en a potentiellement d'autres sous le coude qui sont pas aussi évidents, les comment dire, des sujets où on ne dirait pas qu'il y a un combat pour la masculinité ou pour déconstruire la masculinité qui sont cachés derrière, mais en fait il y en a un.
Mais en fait il y en a partout.
En fait, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est des post-it. Non, c'est une ode au virilisme.
Des post-it. Voilà. Donc, dites-nous si vous voulez qu'on fasse un épisode sur les post-it. Non, mais c'est ça qui est intéressant aussi. On essaie un peu de mêler. On espère avoir trouvé le bon équilibre. On va pas s'excuser en fin d'épisode. On est vraiment désolé d'avoir fait ce que vous voulez.
Pardon.
Mais de partir de notre expérience et en même temps d'essayer de monter en généralité, puis ensuite de revenir dans ce que ça a inculqué dans notre expérience, parce qu'en fait, on est intimement lié à aux préjugés de la société, et en même temps, vu qu'on essaie de les déconstruire, on doit se déconstruire en partant de nous. Donc, du coup, c'est
des montagnes russes.
Oh, c'est un aller-retour, c'est un va-et-vient, c'est une bonne baise.
Ah bah merci pour cette bonne baise.
On a bien baisé les préjugés, Théo.
Ah ça, c'est beau ça.
Vous voulez des clichés de moi en train de baiser les préjugés? Vous voulez me juger en train de baiser des clichés?
En train de baiser des clochers. Je m'appelle Quasimodo, enchanté.
Le mec il baisse des clochers. Ah,
tu mets ta bite dans une cloche, c'est juste beaucoup trop. Ah tu la sens, ma bite dans ta cloche.
Non.
Non, je suis en cuivre. La cloche très terre à terre.
Excusez-moi, il est midi. Alors tu te fais défoncer la bite,
ah,
mec.
Avec le... Ah ouais, faut vite l'enlever, quoi.
Et c'est ce qu'on appelle un gong-bong.
Oh, oh, c'est beau, c'est quand tu fumes en même temps.
Elle n'avait pas compris. C'est quand tu fumes un bong en baisant une cloche. C'est un gong-bong.
C'est génial.
Ah... Eh ben, merci beaucoup Théo pour cet épisode un peu particulier.
Mais merci à toi Flo, et puis en espérant que ça vous aura plu à tous.
On vous embrasse.
On vous applaudit avec le cœur.
À la prochaine.
Merci d'avoir écouté cet épisode.
On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram, ça compte beaucoup pour nous.
De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Bisous.